73 36 36 01 43 73 36 36. Entreprise qualifiée RGE pour bénéficier des aides de l'État.
Collège Oelitzrak, un établissement garçons et filles à taille humaine sous contrat d'association avec l'État. Oelitzrak, prière quotidienne et cours de Kodesh. Excellents résultats, encadrement professionnel, cours de méthodologie, contact permanent avec les parents, classe spacieuse, cantine par service traiteur, possibilité de bourse. Collège Oelitzrak, dans un quartier résidentiel, Paris 20e, métro Gambetta.
01 43 66 97 18.
Oelitzrak.fr.
Oelitzrak.fr.
Oelitzrak, professionnalisme, rigueur et bienveillance.
Bonjour, c'est Bernard Amouaf. Retrouvez Kabbalah Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive, tous les vendredis après-midi à 16h30. Avec Rav Eli Lemel, Rav Mordechai Bitton, Rav Gué, tous les vendredis après-midi sur Radio Shalom, Kabbalah Shabbat à 16h30.
Vous êtes sur Radio Shalom.
Très bonne soirée à l'écoute de Radio Shalom, il est 19h, 18h.
Radio Shalom, le journal vous est présenté par Bernard Abouaf.
Bonsoir à tous. Des centaines de milliers d'Israéliens ont manifesté hier pour exiger un accord avec le Hamas après l'assassinat de 6 otages à Gaza. La chaîne 13 estime qu'ils étaient 280 000 sur la seule ville de Tel Aviv et des rassemblements ont eu lieu dans tout le pays. Le syndicat Histadrut a décidé de bloquer le pays par une grève qui n'a été que partiellement suivie avant d'être interdite par la Cour suprême. La Cour suprême qui a été saisie par des familles de soldats morts à Gaza et qui a estimé que cette grève était politique, et que donc elle devait prendre fin puisqu'elle n'avait rien à voir avec des revendications concernant le monde du travail. Les drames en Israël ont ceci de particulier qu'ils sont suivis d'enterrements. C'est la règle commune. On a donc enterré les 6 otages assassinés en fin de semaine dernière par les terroristes du Hamas qui ont pris la fuite dans un tunnel à Rafah. Le président américain a déclaré que les parties sont très proches d'un accord de cessez-le-feu et de libération des otages. Cependant, lorsque les journalistes lui ont demandé si Benjamin Netanyahou en faisait assez pour conclure un accord, Joe Biden a répondu non. Le chef du gouvernement israélien est vivement critiqué pour avoir ajouté une nouvelle exigence, le maintien des troupes de Tsahal dans ce qu'on appelle le corridor de Philadelphie. En fait, c'est la frontière entre Gaza et l'Égypte. Pendant les 6 premières semaines de cessez-le-feu, Benjamin Netanyahou qui affirme que cette mesure vise à empêcher la contrebande d'armes depuis l'Égypte vers la bande de Gaza. Les États-Unis discutent avec l'Égypte et le Qatar d'une proposition finale pour un accord sur les otages et un cessez-le-feu. C'est le Washington Post qui l'affirme. Et surtout, on connaît désormais la méthode de discussion des Américains. Ce sera « apprendre ou à laisser ».« Take it or leave it », affirme le slogan tel qu'il a été défini par Joe Biden. Benjamin Netanyahou tiendra une conférence de presse à Jérusalem à 20h15, heure locale. La conférence de presse aura lieu après les critiques du président américain dont je viens de parler à l'instant, Joe Biden, qui considère que quelque part, Benjamin Netanyahou est co-responsable, même peut-être même responsable de l'échec des discussions pour la libération des otages. La question du forum des auditeurs ce soir à 18h30 concernera précisément ce point de vue. Voilà, des familles d'otages, on vient de le dire, Joe Biden, l'opposition israélienne, affirme que Benjamin Netanyahou est responsable de la mort de ces 6 otages qui ont été assassinés la semaine dernière dans un tunnel à Gaza. Qu'en pensez-vous ? Ce sera le sujet de notre conversation de ce soir à 18h30. Est-ce que Netanyahou est responsable ? Il repousse les accords. Bien sûr que ce n'est pas lui qui a tué les gens, mais est-ce qu'il porte une responsabilité dans la mort de ces otages dans un tunnel ? Vous nous appelez au 01 43 36 04 06, 01 43 36 04 06. Le forum des auditeurs, c'est à 18h30, c'est tout de suite après le journal. Notre correspondant permanent à Jérusalem, Dror Even Sapir, est en ligne avec nous à présent. Bonsoir, Dror.
Bonsoir.
Dror, alors, certains affirment qu'on est arrivé à un tournant en Israël depuis le 7 octobre. Et franchement, c'est possible. Alors, on a deux éléments qui vont concomitants, qui arrivent en même temps. D'abord, des manifestations qui ont une ampleur qui n'était pas connue jusqu'à présent. Quoi qu'en dise l'opposition, on n'avait pas atteint des chiffres pareils. 280 000 personnes hier à Tel Aviv. Et samedi soir à Tel Aviv, et surtout on sent dans l'opinion que ça bouge. Là, maintenant, Netanyahou a une vraie opposition, on ne sait, même si on ne sait pas si elle est majoritaire. Donc, voilà, assassinat de 6 personnes dans un tunnel par des terroristes qui ont pris la fuite et manifestation pour que cette fois-ci, ça y est, on arrête, on libère les otages.
Oui, vous avez raison de parler de tournant. Effectivement, l'émotion ressentie en Israël par l'annonce de la mort de ces 6 otages froidement assassinés par le Hamas, donc les otages qui ont été en vie, bien évidemment, lorsqu'ils ont été capturés et qui étaient encore en vie il y a quelques jours. On ne sait pas véritablement ce qui a incité le Hamas à les assassiner de cette manière. Mais, allô ?
Vous ne pouvez pas le... Dror Even Sapir, excusez-moi, oui, je vous écoute.
Oui, on ne sait pas véritablement quelles étaient les circonstances précises de la mort de ces 6 otages. Il est très probable, c'est en tout cas l'estimation des forces de sécurité, des agences de renseignement, que les geôliers du Hamas sentaient que l'armée israélienne se rapprochait de leur cachette et que, avant de prendre la fuite, ils ont abattu à bout portant ces 6 otages. Donc les circonstances de la mort de ces 6 Israéliens sont absolument effroyables. Et cela arrive un peu de temps après une décision controversée du gouvernement israélien, plutôt du cabinet restreint, qui avait voté en faveur du maintien de la présence militaire israélienne le long de l'axe Philadelphie, c'est-à-dire le long de la frontière entre la bande de Gaza et l'Égypte. C'est une zone stratégique en effet, puisque c'est par elle que transitent ces armes à destination du Hamas, qui permet au Hamas de renouveler son arsenal, mais en faire un principe intangible risquerait, selon certains experts et selon une partie importante de la population, de réduire à néant les chances de succès des négociations indirectes en cours avec le Hamas sur la libération des otages. C'est la raison pour laquelle un vaste mouvement de soutien en famille des otages, mais aussi de protestation contre la ligne qui est celle du gouvernement israélien actuel, a émergé hier avec des manifestations monstres à Tel Aviv, ailleurs dans le pays. Il y a eu des manifestations, il y aura des manifestations ce soir également à Tel Aviv et dans d'autres localités israéliennes. Il y a eu également une grève générale lancée par la centrale syndicale Istatrout en signe de solidarité avec les familles des otages. Grève des générales qui a été déclarée illégale par le tribunal du travail puisqu'il considère que cette grève a des motifs avant tout politiques. Donc la grève a pris fin, la grève générale a pris fin, mais on sent tout de même un climat de colère, d'émotion, de mobilisation intense. Alors cela ne signifie pas que la majorité du pays descend dans les rues, bien évidemment, mais les sondages montrent assez clairement qu'il y a environ 60% davantage, même 63% des Israéliens qui sont en faveur d'un accord sur la libération des otages, tout en en connaissant le prix. Et le prix, il sera très élevé. Retrait israélien très probablement de la bande de Gaza et libération d'un nombre important de terroristes, certains parmi les plus sanguinaires qui sont actuellement emprisonnés en Israël.
Mais il y a même le plus important, ne serait-ce que symboliquement, c'est que Sinwar va sortir de son tunnel. Même d'après moi, c'est ça le plus important pour l'opinion. Vous avez dit combien qui soutiennent un accord, quel qu'en soit le prix ?
Alors, un accord quel qu'en soit le prix, non, puisque bien évidemment il y a des limites et des lignes rouges à ne pas franchir, mais l'accord tel qu'il avait été élaboré ces derniers temps, tel qu'il avait été présenté par Joe Biden, là il y a une très nette majorité d'Israéliens, et contrairement à ce que certains observateurs disent, ce n'est pas limité à ceux qui sont opposés, quoi qu'il arrive, au gouvernement actuel. Il y a des électeurs des partis religieux, des électeurs de Likoud, qui sont en faveur de cet accord. Ce n'est pas le cas, bien évidemment, des électeurs des partis de Betzalel Smotrich et d'Itamar Ben-Gvir, partis d'extrême droite, qui sont des composantes essentielles de la coalition gouvernementale. Et une bonne partie des Israéliens considèrent que c'est pour des raisons essentiellement de survie politique que Benjamin Netanyahou a durci le ton dans le cadre des pourparlers. Benjamin Netanyahou qui va prendre la parole tout à l'heure avec une conférence de presse. C'est un exercice tout à fait inhabituel pour le Premier ministre israélien de prendre la parole. Et c'est le signe, cette prise de parole, qu'effectivement, qu'effectivement les choses changent et qu'on assiste à un tournant.
Il y a le feu en la demeure. Excusez-moi, mais je vous redemande le chiffre, le pourcentage d'Israéliens qui soutiennent l'accord de juillet.
63% si les souvenirs sont bons.
Ce qui est une large majorité. Dror Even Sapir, merci. Je rappelle que vous êtes l'un des correspondants permanents de Radio Shalom à Jérusalem. Merci à vous et bonsoir.
Bonsoir.
Je vous le disais en titre, les drames en Israël ont ceci de particulier qu'ils sont suivis d'enterrements. Donc voilà, c'est la règle. On a donc enterré 6 otages assassinés en fin de semaine dernière par les terroristes du Hamas qui ont pris la fuite. La mère d'Eden Yerushalmi.
Eden, slicha, Eden.
Hier, c'était mon anniversaire. Et tout le monde me disait, on te souhaite que ta fille va revenir. Et tu es revenu. Mais je ne pensais pas que ce serait comme ça. Tu t'es battue, tu t'es
défendue.
Je te demande pardon, Eden. Je te demande pardon, j'ai pas fait assez pour te ramener en vie en Israël. Ori Danino, 25 ans, avait sauvé plusieurs festivaliers de la fête Nova avant de revenir pour tenter d'en sauver d'autres, du Hamas, dont les frères et sœurs de Regev. Et il avait été capturé à ce moment-là et emmené à Gaza. Il a été assassiné par ses ravisseurs dans la nuit de jeudi à vendredi. Alors que, au-delà du fait que c'est un otage, c'est aussi un véritable héros, car qui revient sur le lieu d'un combat pour aller sauver les autres? Ben, c'est le cas de Ori Danino, 25 ans. Il a été enterré à Jérusalem. Donc, 6 personnes ont été enterrées. Et il y a, donc, on ne pourra pas entendre tous les enterrements, ceci étant quand même un son de la manifestation contre Netanyahu. Donc ça, c'était samedi soir. Voilà à quoi ressemble une place de Tel Aviv lorsque des centaines de milliers de personnes chantent ensemble la Hatikva. Voilà, 280 000 personnes rien qu'à Tel Aviv. Et puis le Hamas continue son action. Aujourd'hui, Ynet a publié une vidéo de l'enlèvement de Alma Avraham, une femme de 84 ans, qui était résidente de Nahal Oz. Et la vidéo a été enregistrée lors du massacre du 7 octobre. La vidéo est suivie d'un autre clip où l'otage lit des propos dictés par les ravisseurs et qui demande à Netanyahou de faire la paix avec le Hamas sans combattre. La victime est blessée au bras au moment de son enlèvement. Et puis, illustration de la haine qui grandit en Israël, entre Israéliens, des jeunes ados de 15 ans, en short, rien de nationaliste religieux, des jeunes ados en short en plein été, sont des filles, sont allées à la rencontre des manifestants qu'on vient d'entendre à l'instant, ceux qui chantaient la Hatikva. Donc des manifestants plutôt de gauche ou libéraux qui réclament un accord avec le Hamas pour la libération des otages. Et ces jeunes filles, 15 ans maximum, insultent à pleine bouche les manifestants. « Fiers d'être de droite », disent-elles. « Charmouta », vous êtes des charmouta. Pour ceux qui parlent arabe, ils comprennent ce que ça veut dire, c'est très vulgaire. Disons que ça veut dire « prostituée ». L'inévitable Bibi Melech Israël et Melech Israël, donc roi d'Israël, on connaît le slogan tel qu'il est prononcé, et les insultes, pas d'objet. C'est vous, non, alors attends, vous les religieux. Voilà, donc petite erreur dans les sons, parce qu'on va entendre maintenant quelque chose qui est plus sérieux que les adolescentes. Le climat se dégrade, vitesse grand V. Et là, on va entendre la députée Naama Lazami. Naama Lazami, elle est du parti Avada, elle est du parti travailliste. Elle est face à Gafni. Gafni, lui, c'est le leader des religieux. Des religieux orthodoxes, pas les sionistes religieux. Et elle l'accuse d'avoir abandonné toute morale juive et d'avoir sciemment laissé mourir les otages en ne faisant rien. Donc, on fait parler le... Il y a un petit jeu d'équaliseur quand même. On fait parler le mec. Moi, je fais... C'est vous, vous les religieux, vous les partis religieux, c'est vous qui étiez contre les mitzvot et pour les gardiens des halakhot. Je vais te dire, toi Gafni, toi, tu aurais dû être debout avec tes pattes de derrière pour le pidyon shvuim. Ne pas laisser les messianistes qui ont pris le contrôle de la Knesset et d'empêcher de le faire. Il y a 6 otages qui ont été assassinés la dernière semaine, il y a quelques jours. Ils sont restés, ces enfants sont restés 11 mois en détention. Ils attendaient que vous les rameniez en Israël. Vous ne pouviez pas dire, c'est nous qui allons être le contrepoids. S'il n'y a pas d'accord, on va quitter le gouvernement. Tes budgets pour tes écoles, pour tes yeshivot, c'est plus important. C'est plus important, c'est juif de réfléchir comme ça. Tu penses que tu défends la morale juive? Mais dis-moi, Gafni, tu vas aux enterrements? Tu leur fais le kaddish? À ces otages? Gashmi, t'as pas honte? On va jusqu'à où? Qu'est-ce qui est juif dans le fait de laisser crever ces juifs comme ça? Quoi? Je te parle même pas de la morale de n'importe quel être humain. Je te parle de ton judaïsme à toi. Il y a 6 citoyens qui sont morts parce que toi, tu les as tués. Voilà, des propos extrêmement durs tenus face à face, en commission, face à Gafni, donc qui est député religieux et qui d'ailleurs ne dit rien. La personne qui interrompt la députée, c'est pas Gafni. Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a participé, lui, à une réunion dans l'autre sens, sans doute, puisqu'il fait partie justement de ces sionistes religieux. Il a participé à un rassemblement du forum des familles de soldats qui sont morts à Gaza. Et il dit, oui, j'utilise tout mon pouvoir au sein du gouvernement pour empêcher un accord qui serait irréfléchi. Et Ben-Gvir ajoute, avec le Hamas, il faut parler uniquement à travers des viseurs de fusils, uniquement avec des fusils et lunettes. Ce matin, des membres de ce forum des familles des soldats morts à Gaza ont bloqué l'entrée du bureau de Benjamin Netanyahou dans le cadre d'une contre-manifestation face à la grève nationale qui avait été lancée par le syndicat de la Histadrut et, je vous l'ai dit en titre, manifestation qui a été finalement interdite par le tribunal puisque c'est une manifestation politique et les syndicats sont là pour défendre les travailleurs, pas des idées politiques. On continue et on est toujours sur le même registre. Mati Danzig, le frère d'Alex, assassiné en captivité, critique Benjamin Netanyahou après le meurtre des 6 otages à Gaza dont on parle depuis le début de cette édition. Et alors là, on a encore passé un nouveau stade dans les accusations. Clairement, il dit que c'est Netanyahou qui assassine de ses propres mains les otages. Il y a une idée qui dit que le groupe qui refuse un accord, qui pousse le gouvernement, c'est aussi elle qui prend tout le pouvoir politique. Ça aussi, c'est l'erreur. On parle finalement de citoyens, comme tous les citoyens qui ont tout simplement été pris otage chez eux, qui ont été assassinés. Il y a une erreur d'accepter les slogans de ce petit groupe.
Yannir?
Pourquoi ils sont là-bas? Pourquoi ils sont otages? Dis-moi pourquoi ils sont otages? Parce que l'État d'Israël n'a pas réussi à les protéger. Mais pourquoi il n'y a pas d'accord? Comment tu expliques? Il y a beaucoup de raisons. Il y a des facteurs qui rentrent dans cet accord. Par exemple, l'axe Philadelphie et l'insistance du Premier ministre israélien et l'insistance du Hamas. Beaucoup de facteurs qui ont changé, c'est ça? À chaque fois, Netanyahou, il a changé les facteurs. Tu es d'accord avec moi? Alors, chaque personne qui a un peu de cœur, un peu de cerveau, voit que Netanyahou, il repousse toujours l'accord. Toujours. C'est lui qui les a assassinés. C'est Netanyahou qui a assassiné avec ses mains les otages. C'est lui qui les a étranglés avec ses mains. Il pouvait les libérer plein de fois. Il a fait le choix de ne pas les libérer. Pourquoi ? Pour garder son gouvernement, le pire gouvernement qu'il y a jamais eu dans l'histoire d'Israël. Alors quoi ? Je ne comprends pas. C'est ça le plus politique du monde. Il n'y a pas d'autre explication. Moi, je fais partie des familles qui, au début, mais très vite, on a compris que Netanyahou, il fait tout pour qu'il n'y ait pas d'accord. Et c'est pour ça que, dès le début, j'ai commencé à aller aux manifestations à Shaar Devin, sur la route Begin. Et tu nous dis que nous, on en a fait quelque chose de politique. Et c'est pas bien. Mais si c'est politique, ça vient d'eux. Voilà, donc Max Dantzig, qui est le frère d'Alex, qui a été assassiné en captivité par le Hamas. Benjamin Netanyahou, qui lui s'en est pris à la grève, qui a été organisée par la Histadrut et interdite ensuite, il a dit « c'est une honte, c'est comme dire à six noirs, vous en avez tué six, nous vous soutenons ». Le Hamas qui a publié des images de six otages assassinés, dont les corps ont été récupérés par Tzahal dans la bande à Gaza. On ignore exactement quand ces images ont été prises, mais le Hamas affirme qu'il publiera encore d'autres vidéos de ces otages assassinés. Retour en France avec l'éditorialiste Philippe Val, ce matin sur Europe 1, qui pose la question « Faut-il des ministres antisémites pour respecter la diversité ?» Philippe Val.
Il y a quelque chose que je n'ai pas digéré. Et comme ça fait maintenant plus d'une semaine, le mieux, c'est de l'expulser dans une chronique. C'est une scène qui se passe dans la cour de l'Élysée. Lucie Castetz sort de l'entretien d'embauche sollicité par le président de la République afin de trouver un premier ministre. Lucie Castetz, tout sourire, entourée de ses camarades écologistes, socialistes, LFistes, tous plus sympathiques les uns que les autres, au point que pour les plus âgés d'entre nous, on pourrait la confondre avec Édith Piaf, entourée des compagnons de la chanson qui s'apprête à entonner les trois cloches, sauf que là, les cloches sont une dizaine.
Alors jusqu'ici, c'est sympathique, qu'avez-vous de retrouver d'indigeste ?
Les journalistes tendent leur micro vers Lucie Castetz, qui nous promet la vie en rose, quand l'un d'eux, sans doute insensible au charme suranné du music hall, lui pose cette question. Êtes-vous pour la levée de l'immunité parlementaire de Rima Hassan, qui refuse d'appeler acte terroriste le pogrom du 7 octobre perpétré par le Hamas ? Alors Lucie Castetz répond tout sourire. Cette question n'est pas à l'ordre du jour. Et là, ça coïncide, ça ne passe pas. Citrate de bétaïne, Alka-Seltzer, oxyboldine, rien n'y fait. Comme on dit vulgairement, j'ai la gerbe. Ça prétend être Premier ministre de la France et quand on lui pose une question qui engage l'identité même de la France, à savoir sa position face au terrorisme islamique et à l'antisémitisme, Madame Lucie considère que ce n'est pas à l'ordre du jour. Mais alors c'est quoi l'ordre du jour pour un Premier ministre ?
Philippe Val, dans un édito ce matin sur Europe 1, et nous sommes à présent avec Georges Malbruno. Georges Malbruno qui est grand reporter et qui lui s'exprimait dans un éditorial également sur RTL. Georges Malbruno qui est en ligne avec nous.
Oui.
Bonsoir Georges.
Bonsoir.
Alors vous avez, d'abord il faut savoir que vous connaissez très bien les services de renseignement, inutile de préciser que vous êtes un expert du Proche-Orient, mais en plus, vous connaissez bien les renseignements, vous avez dit une chose pareille qui est une information. Les services de renseignement français savaient depuis plus d'un an que le 7 octobre était en préparation. Ils savaient que des centaines de membres du Hamas se préparaient à une opération d'invasion, c'est-à-dire exactement ce qui s'est passé. Alors, la question qui se pose est la suivante, Georges. Est-ce que il s'agit d'une information comme les services de renseignement en ont des dizaines, même des centaines, même des fois c'est des hypothèses, même des fois c'est des analyses, ou est-ce qu'il s'agit, selon vous, de ce qu'on appelle une information précise ? Et là, si on tombe dans le cas de l'information qu'on qualifie d'information précise, c'est une faute de renseignement très très grave pour les Israéliens. Ça rejoint un peu d'ailleurs ce qu'a dit le chef du Mossad. Quelle était la nature de l'information des services de renseignement français lorsqu'ils ont dit le Hamas prépare une invasion d'Israël ?
Non, les services de renseignement français, comme d'ailleurs les Égyptiens et comme d'ailleurs les Israéliens, l'unité 8200 du Mossad, étaient au courant de préparatifs depuis deux ans, en tout cas, puisque d'après une de leurs sources, eh bien, Yahya Sinwar s'était confié sur son intention d'envoyer en Israël des milliers d'hommes. Voilà, une information qui était en leur possession, mais après, c'est une intention. Après, ça n'est pas une information précise. Il y avait d'autres renseignements sur des préparatifs, hein, qui étaient d'ailleurs visibles presque à l'œil nu, dont disposaient les services de renseignement français, mais ils ne connaissaient pas évidemment la date d'une attaque. Il y avait simplement un plan de menace sur Israël. Voilà. Donc je pense pas qu'il n'y a pas eu de défaillance de la part des services de renseignement français. Il faut savoir quand même ce qui est important de signaler, c'est ce que j'écris dans mon papier, c'est que en vertu d'un accord entre Jacques Chirac et Yasser Arafat de 1995, datant donc du début de l'autonomie palestinienne en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, le renseignement glané par la France dans la bande de Gaza et aussi dans les territoires palestiniens n'était pas partagé avec Israël, parce que, eh bien, c'était une entité autonome et que, par conséquent, il y avait cet accord. Cet accord, il me semble, a tenu jusqu'au 7 octobre. Avant le 7 octobre, un ancien chef de la DGSE m'a confirmé qu'effectivement, il n'y avait pas de partage du renseignement entre la France et Israël, tout ce qui touche à Gaza et dans les territoires palestiniens, pour une raison simplement aussi de protection des sources françaises. En revanche, après le 7 octobre, il est évident que là, il y a eu partage du renseignement, puisque Emmanuel Macron, vous vous souvenez, avait proposé une vaste coalition internationale contre le Hamas, et donc une coopération, une intensification des renseignements français et israéliens, du partage.
Georges Malbruno, juste une question. Vous vous êtes exprimé dans plusieurs de vos écrits pour l'accord d'otages, ce qui d'ailleurs correspond tout à fait à votre philosophie et à votre vision du Proche-Orient. Mais je voudrais vous poser une question. Si l'accord tel que, d'après ce qu'on en sait, stipule le retrait de l'axe de Philadelphie, c'est-à-dire de la frontière entre Gaza et l'Égypte, où on a trouvé 70 tunnels de contrebande, retrait de Tsahal, libération de centaines d'hommes du Hamas, laisser Sinwar en vie, donc il va faire ce qu'il a l'habitude de faire, il va retourner au pouvoir. Comment, d'après vous, Netanyahou peut accepter une chose pareille ?
Non, mais Netanyahou ne peut pas accepter ça. Netanyahou privilégie le prolongement de la guerre, qui est sa survie politique. Vous avez entendu ce qu'a dit aujourd'hui Joe Biden, qui est quand même le président des États-Unis, qui est un président pro-israélien comme il n'y en a probablement pas eu depuis longtemps, qui a dit que Benjamin Netanyahou n'en faisait pas assez. Il l'a dit au lendemain de la mort de 6 otages israéliens. C'est quand même une déclaration extrêmement forte. Donc, le chef du Shin Bet, vous l'avez entendu, le chef du Mossad l'a dit, Yoav Galan l'a dit, il faut un accord sur le corridor de Philadelphie. Si on laisse les soldats israéliens en permanence là-bas, il n'y aura pas d'accord. S'il n'y a pas d'accord, il n'y aura pas de libération d'otages. Et s'il n'y a pas de libération d'otages, eh bien, c'est une hypothèque sur leur vie. Donc, évidemment qu'il faut un accord sur Philadelphie. Il faut trouver un accord qui permette de sécuriser Israël, d'éviter qu'il y ait encore des tunnels. Alors, il faut que ce soit une présence, je ne sais pas moi, égyptienne, onusienne, américaine, arabe. Mais il ne faut pas insister comme le fait Benjamin Netanyahou. Sinon, il n'y aura pas d'accord. Et s'il n'y a pas d'accord, il n'y aura pas de libération d'otages.
Georges Malbruno, merci. On lira avec profit vos papiers dans le journal Le Figaro et on voit donc cette information que vous avez publiée. Les services de renseignement français, eux aussi, étaient au courant d'une préparation, d'une invasion du territoire israélien par les hommes du Hamas il y a plus d'un an. Georges Malbruno, je vous remercie d'avoir été l'invité de Radio Shalom. Bonsoir à vous.
Merci.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette édition.
Radio Shalom, la radio qui vous écoute.
La radio qui vous écoute. Le KKL, depuis 120 ans, une histoire extraordinaire.
Une aventure qui mêle écologie, réalisation d'infrastructures et plantation d'arbres. Une histoire d'éducation sioniste et d'investissement dans le futur des jeunes générations.
Le KKL, c'est la réalisation du rêve de ceux qui ont cru en ce miracle que l'on appelle Israël.
Mais par-dessus tout, le KKL, c'est un amour indéfectible et un engagement pour la terre et le peuple d'Israël.
Faites partie de cette aventure en soutenant le KKL de France.
Faites votre don sur kkl.fr.
Il y a des salles de bain qui font vraiment rêver.
Bain et déco.
Il y a des cuisines où l'on se prendrait volontiers pour un chef étoilé.
Bain et déco.
Et si c'était le moment de changer? Nos architectes et artisans qualifiés Bain et déco conçoivent et réalisent votre projet de A à Z. Des produits avant-gardistes, des marques prestigieuses et un vrai savoir-faire. Pour une seule ambition, l'exception.
Bain et déco, deux showrooms de plus de 500 mètres carrés à Paris 11e et Boulogne-Billancourt. Et venez découvrir notre nouveau showroom, 212 boulevard Saint-Germain, Paris 7e.
Bainetdeco.fr.
La société E-Cube vous invite à la 87e édition du Salon de l'immobilier et de l'investissement israélien qui se tiendra à Paris le dimanche 8 septembre prochain à partir de 10h30 au Salon Hoche, 9 avenue Hoche, Paris 8e. Les plus grands noms de l'immobilier israélien seront présents pour vous proposer une palette de programmes dans tout le pays. Venez à la rencontre de plus d'une vingtaine de promoteurs prestigieux, d'agents immobiliers expérimentés, de courtiers avec des solutions adaptées, d'avocats et d'un fiscaliste pour vous informer. Des programmes de qualité, neufs, deuxième main ou location, à des prix promotionnels très attractifs et des facilités de paiement inédites. Plus que jamais, Israël a besoin de votre soutien et vous êtes prêt à franchir le pas pour construire votre avenir en Israël. Nous vous attendons nombreux le dimanche 8 septembre à partir de 10h30 au Salon Hoche, métro Charles de Gaulle Étoile. Entrée gratuite et sans inscription. E-Cube, votre partenaire pour investir en Israël depuis 1990.
Collège Oel Yitzhak, un établissement pas comme les autres. Un mot pour définir le collège Oel Yitzhak? Professionnalisme. Le collège Oel Yitzhak met au service des élèves une équipe pédagogique très compétente, une méthodologie de travail basée sur une longue expérience et un encadrement professionnel en contact permanent avec les parents. Collège Oel Yitzhak, Paris 20e.
01 43 66 97 18.
Oelyitzhak.fr.
Oelyitzhak.fr.
Oel Yitzhak. Professionnalisme, rigueur et bienveillance.
Vous êtes sur Radio Shalom.
Radio Shalom.
Vous êtes sur Radio Shalom.
Tu es déçu de ton orientation? Tu ne te sens pas très à l'aise dans ta formation? Les écoles de l'Orte peuvent te permettre d'accéder sereinement à un métier d'avenir dans les domaines du numérique, du paramédical, du commerce digital, de la finance et bien d'autres. Il est toujours temps de rejoindre l'environnement chaleureux et bienveillant de l'une de nos écoles à Lyon, Marseille, Montreuil, Strasbourg, Toulouse ou Villiers-le-Bel. N'attends plus, ton avenir se décide maintenant. Contacte-nous sans attendre au 01 49 88 46 50. Découvre aussi nos formations sur www.ort-france.fr. La société E-Cube vous invite à la 87e édition du Salon de l'immobilier et de l'investissement israélien qui se tiendra à Paris le dimanche 8 septembre prochain à partir de 10h30 au Salon Hoche, 9 avenue Hoche, Paris 8e. Les plus grands noms de l'immobilier israélien seront présents pour vous proposer une palette de programmes dans tout le pays. Venez à la rencontre de plus d'une vingtaine de promoteurs prestigieux, d'agents immobiliers expérimentés, de courtiers avec des solutions adaptées, d'avocats et d'un fiscaliste pour vous informer. Des programmes de qualité, neufs, deuxième main ou location, à des prix promotionnels très attractifs et des facilités de paiement inédites. Plus que jamais, Israël a besoin de votre soutien et vous êtes prêt à franchir le pas pour construire votre avenir en Israël. Nous vous attendons nombreux le dimanche 8 septembre à partir de 10h30 au Salon Hoche, métro Charles de Gaulle Étoile. Entrée gratuite et sans inscription. E-Cube, votre partenaire pour investir en Israël depuis 1990.
Collège Oel Yitzhak, un établissement garçons et filles à taille humaine sous contrat d'association avec l'État. Oel Yitzhak, prière quotidienne et cours de Kodesh. Excellents résultats, encadrement professionnel, cours de méthodologie, contact permanent avec les parents, classe spacieuse, cantine par service traiteur, possibilité de bourse. Collège Oel Yitzhak, dans un quartier résidentiel, Paris 20e, métro Gambetta.
01 43 66 97 18.
Oelyitzhak.fr.
Oelyitzhak.fr.
Oel Yitzhak, professionnalisme, rigueur et bienveillance.
Salut Alexis.
Salut Ellie.
Salut Levana. Salut Fabrice.
Salut à tous. Retrouvez-nous dans À Contre-Courant sur Radio Shalom en direct tous les dimanches à 18h30.
Vous écoutez Radio Shalom sur le 94.8 FM.
94.8 FM.
d'élèves, d'écoliers. Le chiffre de 12 millions d'enfants est avancé. 12 millions d'enfants qui sont à l'école. Et parmi eux, des petits-enfants juifs. Et nous sommes en ligne avec Élodie Marciano, qui est la présidente de l'association Choisir l'école juive. Bonsoir Élodie.
Bonsoir Bernard, bonsoir à tous.
Bonsoir. Et alors, par ailleurs, il y a encore des nouvelles écoles juives. Moi qui me dis, mais c'est incroyable, ça foisonne évidemment, que ça nous fait à tous très plaisir. Mais il y a encore des nouvelles écoles juives.
Mais absolument, il y a de nouvelles écoles juives, parce qu'on peut dire que cette année est une année record, l'année 2024. Cette rentrée, plus de 35 000 élèves juifs vont faire leur rentrée scolaire et leur premier pas à l'école juive. Donc il y a une appétence aujourd'hui, et d'ailleurs depuis de plusieurs années, hein, pour l'école juive. Mais c'est vrai que depuis le 7 octobre, eh bien, on ressent profondément cet attachement pour nos valeurs, une volonté de se renforcer, de s'attacher également à Israël, que nous avons dans le cœur. Et ça passe par l'école juive. Donc beaucoup, beaucoup de demandes. Et donc... forcément, en corrélation, de nouveaux projets et de nouveaux établissements qui voient le jour.
Est-ce qu'il y a des tendances? Parce que on a connu dans les premières écoles juives, les gens en fait devenaient religieux. Voilà, ils voulaient leurs enfants. Après, on a connu, et vous connaissez bien ça, parce que Choisir l'école juive, c'est une association qui a accompagné des milliers d'élèves pour rejoindre ces écoles. On a connu, et malheureusement, toutes les années où les gens finalement disaient « je veux pas laisser mes enfants à l'école publique, ils sont agressés, je me sens pas tranquille ». Et est-ce que la tendance aujourd'hui, c'est quoi quand on ouvre de nouvelles écoles juives?
Moi, j'ai envie de dire que c'est un mix. C'est un mix de tout ça. C'est vrai qu'à une époque, forcément, quand on était plutôt pratiquant, alors c'était une évidence. Ensuite, parce qu'on se sentait pas en sécurité à l'école publique, on se tournait vers l'école juive. Aujourd'hui, je crois que c'est vraiment un mix. Et encore une fois, depuis les événements tragiques du 7 octobre, il y a un retour, si vous voulez, plutôt positif, d'aller de l'avant et de se rapprocher de ses racines. On a envie de se sentir à l'aise et en sécurité à l'école juive. On le ressent très nettement.
Ah oui, nous aussi on le ressent. On le ressent sur les réseaux sociaux de la radio, on le ressent parmi les auditeurs. Il y a une volonté de retrouver son identité, son judaïsme, sa communauté depuis le 7 octobre et sa culture. Mais alors étonnamment, on vient de dire que c'était le jour de la rentrée aujourd'hui, mais on peut encore s'inscrire dans les écoles juives même après la rentrée.
Alors, ça peut paraître saugrenu, mais effectivement, chaque année, il y a des enfants qui font deux rentrées, une première à l'école publique et une seconde à l'école juive. Pourquoi ? Parce que, eh bien, il y a encore des familles qui, pourtant, le jour de la rentrée, auraient bien aimé mettre leurs enfants à l'école juive, mais pour plein de raisons différentes, n'ont pas réussi à trouver de place à l'école juive. Et puis, c'est un peu le cœur lourd qu'ils ont envoyé leurs enfants aujourd'hui. Donc moi vraiment, si vous m'en donnez la possibilité, voilà, j'ai envie de dire à tous vos auditeurs qu'il n'est pas trop tard, qu'ils peuvent contacter l'association Choisir l'école juive et qu'on est vraiment en capacité, comme on le fait chaque année, hein, en tout début d'année, on peut trouver encore quelques places à l'école juive, parce qu'à la rentrée scolaire, finalement, il y a aussi beaucoup de désistements d'une école pour une autre école, ou des aliotes qui n'étaient pas forcément déclarés
à ce moment-là. Des gens qui sont partis en Israël, ouais.
Absolument. Ouais. Donc il est effectivement possible encore de trouver de la place à l'école juive. Et puis en plus, on a eu, comme vous l'aviez souligné tout à l'heure, de nouvelles écoles qui se sont ouvertes et qui, assez tardivement. Donc les inscriptions ont pris du retard et donc il reste encore quelques places dans ces écoles en septembre.
Très bien. Alors si on a le cœur lourd et on se dit voilà...
Bon. Non, si vous voulez...
Si on a le cœur lourd, comme vous disiez, c'est une très belle expression, et on peut encore demander, taper à la porte, voir en plus les écoles juives, les enseignants sont là, ils vivent ça plus comme une mission que comme... c'est pas hein, pour eux, c'est une vraie mission. Et donc, on peut trouver porte ouverte dans une école juive pas loin de chez soi. Élodie Marciano, on peut regarder tout ça sur le site de Choisir l'école juive, j'imagine.
On peut aller sur les réseaux sociaux, sur le Facebook ou l'Insta de Choisir l'école juive, bien sûr. Et puis, on peut aussi souhaiter quand même une belle rentrée à tous nos enfants.
Tiens,
une année pleine de réussite. Et puis, si on pense à Israël, on a envie de le dire en hébreu.
Allez.
Ça vous va?
Allez.
Allez, Natli Moudi Moutslachat Vetoucha.
Oh là 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 là, mais comment je vais faire moi pour répéter ça?
En sécurité, on en a tous besoin et vraiment on souhaite à tous nos parents voilà, de faire les bons choix pour les années à venir et apporter un bagage pour la vie à tous ces enfants qu'on aime.
Mais tiens, Shnat Limoudim Mutzlachat nous a proposé Elodie. Ou Metoucha, ou Betoucha. Merci Elodie, effectivement.
Avec plaisir, Bernard.
Elodie Massanovou, qui est la présidente de l'association Choisir l'école juive. Bonsoir à vous.
À très bientôt.
Et tout de suite, le forum.
Les auditeurs ont la parole. Du lundi au jeudi, retrouvez le forum Radio Shalom de 18h30 à 19h. Un seul numéro, le 01 43 36 04 06.
01 43 36 04 06.
Donnez votre avis sur l'actualité et réagissez en direct.
Alors, question très dure ce soir dans le forum, puisqu'on voit qu'en Israël, les gens en viennent quasiment aux mains, les uns contre les autres. Est-ce qu'il faut accepter un accord et les accusations ont fusé durant tout le week-end, en disant mais c'est Netanyahou qui est responsable. Il repousse l'accord. Pourquoi c'est devenu... D'abord déjà parce que ça fait un an, donc ça fait beaucoup. Depuis le 7 octobre, on arrive là, ou un an. Et puis, il se trouve que les 6 otages qui ont été assassinés jeudi soir, parce que les terroristes ont pris la fuite, devaient être libérés en juillet. Ils étaient sur la liste qui avait été acceptée par le Hamas et ils ont été assassinés il y a 3 jours. Donc la colère évidemment a explosé, mais pas tout le monde pense qu'il faut accepter l'accord, pas du tout. Il y a une vraie discussion et c'est le sujet de notre débat de ce soir. Vous nous appelez pour en parler au 01 43 36 04 06, 01 43 36 04 06 et on va prendre tout de suite un premier appel. Bonsoir.
Veuillez raccrocher et...
Ah ben non, veuillez raccrocher. On a eu tellement... Par contre, on a eu tellement d'appels, je vous le dis. Je crois que là, si on voulait faire le sujet qui concernait tout le monde, c'était celui-là. Et donc, on va prendre un appel. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît.
Michel.
Michel. Alors, Michel, votre avis.
Alors, mon avis, on n'a pas à accuser Benjamin Netanyahou, ça.
Pourquoi ?
Parce qu'il n'est pas responsable de la mort des otages. Ça serait, c'est ignoble de dire ça, je trouve. Et je trouve que, je suis désolé de le dire comme ça, brut, mais que l'opposition en Israël, que les syndicats, machin, ce n'est pas le moment de faire des grèves, de faire d'accusations contre Benjamin Netanyahou. Quand il y a le feu dans une maison, on ne regarde pas si la tapisserie elle est jolie ou pas. Quand il y a l'urgence et danger de mort, comme pour les otages, d'abord on règle le problème. Après, il faut faire des accusations contre Netanyahou et compagnie. Pourquoi il y a eu la faille du 7 octobre ? Ça oui, mais après, d'abord, sauvons les otages. Les polémiques sur le syndicat ont fait grève, etc., je peux comprendre les familles, mais ce n'est pas le moment de se déchirer entre nous. D'abord, otage. Après, on fait le point et on voit où était la faille.
Allô ?
Oui ?
Michel Allô, était en train de parler. Oui, Michel est en train de parler, on va lui dire au revoir. On est en direct. Mais je vois que ça passionne tout le monde, oui.
Allô ?
Michel, okay. Oui, c'est bon. Michel, au revoir.
Merci, bonne soirée.
Gentillesse. Bonsoir, Michel.
Allô ?
Oui, monsieur. Allô. Alors, vous êtes en direct. Il est 18h43. Votre prénom, s'il vous plaît.
Alors, c'est Claude. D'accord. De Levallois.
Claude de Levallois. On vous écoute.
Je donne mon avis, c'est ça, c'est direct.
Ben oui. C'est, mais ben, bon. Vous avez tout fait pour être en direct, Claude. Michel était en train de parler.
D'accord, ok. On va couper, parce qu'après, le temps va passer.
Okay. Allez, Claude. On vous écoute.
Déjà, il faut arrêter d'incriminer Netanyahou. Parce que tout ce qu'il fait, c'est pour le bien d'Israël. Et la plupart des gens... J'ai écouté à l'instant sur la radio J, là, Malbruno, il avait dit que les services secrets français savaient depuis plus d'un an qu'il allait y avoir une attaque du Hamas sur Israël. Et les services français n'ont rien dit à Israël. Et deuxièmement, quand ils ont posé la question à Malbruno, il lui a dit oui parce qu'il ne connaissait pas la date. C'est-à-dire, regardez un petit peu cette hypocrisie. C'est-à-dire, il faut connaître la date de l'attaque pour avertir les Israéliens. Et tout ça, c'est confus, c'est fourbe, tout ça. Moi, je vais vous dire, Israël est trop gentil et trop naïf. Ils font trop confiance. Moi, déjà, faire confiance à la France, pour moi, c'est très idiot, ça. Hein, ça me rappelle De Gaulle quand il avait fait l'embargo sur les Mirages pendant la guerre des six jours, puisqu'il leur a dit, si on va vous livrer les avions, vous allez les utiliser. Mais c'est normal, des avions de guerre, c'est pour les utiliser, non? C'est pas pour faire les mettre dans le parking. Maintenant, on revient pour Netanyahou. Tous y répètent la même chose. Netanyahou veut que la guerre continue pour que lui garde son poste. C'est pas vrai. C'est pas vrai. La première bêtise qu'a fait Israël, déjà, la grande bêtise, c'est d'avoir quitté la bande de Gaza en 2005. On a vu le résultat. Parce que ils ont fait confiance aux Égyptiens qu'ils allaient surveiller la bande de Gaza. On a vu, ils n'ont rien surveillé, au contraire. Au contraire, ils ont laissé faire. Arrêter. Et ce qu'il faut maintenant, c'est que... Moi, c'est facile de dire ça. Moi, qui suis assis à Paris, là, sur ma chaise, c'est facile de dire ça. Mais je pense qu'il faut que les Israéliens... Ils vont pas recommencer la même bêtise de 2005. Il faut qu'ils restent définitivement dans la bande de Gaza. Et qu'ils l'occupent. Okay. C'est tout. Et l'histoire de la bande de Philadelphie, eh ben, il a raison, Netanyahou. Il faut toujours garder cette bande, parce que c'est pareil, les Égyptiens ils vont laisser faire et les armes vont passer en Israël. Alors arrêtez avec cette naïveté. Netanyahou, merci, pour moi, il est très très bien. Il ne faut pas critiquer Netanyahou.
Ok, Claude, voilà. Très bien. Merci, vous avez été très clair, Claude. Et merci à vous. Bonsoir.
Au revoir.
On prend un nouvel appel au 01 43 36 04. Les gens se bousculent à l'antenne. Je vous promets, j'en ai vu un des forums. Et là, les gens se... C'est normal en plus. Il y a un random. Oui, bonsoir. Vous avez la parole.
Vous m'entendez ?
Oui, je vous entends. Tout à fait.
Oui, bonsoir. Simon de Paris.
Simon
de Paris. Je voulais vous poser une question. Alors, je vais peut-être paraître très naïf, mais je vous la pose quand même. Vous allez me répondre. Israël n'a pas à faire un pays avec qui respecte certaines règles dans le conflit.
Non, on va être gentil de ne pas couper la parole à Simon, qui est en train de me poser une question. Bon, Simon, excusez-nous, on vous écoute. Donc,
je vous en prie.
Israël n'a pas à faire une organisation qui respecte le droit.
Voilà, Israël a à faire une organisation terroriste qui n'est ni sans foi ni loi, qui ne respecte absolument rien, qui est barbare, sanguinaire, reconnue mondialement comme organisation terroriste par beaucoup de pays. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi Israël respecte, elle, certaines lois. Elle a affaire à une organisation barbare qui détient des otages. Alors je me suis posé la question, pourquoi Israël n'accepterait pas toutes les revendications du Hamas? Sans aucune exception, même les plus excentriques et les plus irréalisables, le Hamas libère les otages et Israël répond derrière. Tout simplement, et finit le travail.
Alors, vous posez deux questions différentes. La première, c'est pourquoi on respecte des règles qu'eux ne respectent pas. Alors, d'abord, déjà parce que Israël est un État, et qu'un État a des devoirs, donc il a des prérogatives, et tant mieux qu'Israël est un État. Tant mieux pour les Juifs. Il y a un État qui s'appelle État. Mais ça implique des responsabilités. Ceci étant, au risque de vous étonner, face au Hamas, on n'a pas tous les devoirs. Alors je sais que c'est très surprenant, mais par exemple, ils sont pas des soldats. Donc par exemple, quand ils sont internés à Sdetéman, Israël refuse de faire venir la Croix-Rouge et n'est pas condamné internationalement parce que comme c'est des détenus qui sont de l'ordre du terrorisme, on pourrait dire presque du droit commun, c'est pas les mêmes règles que pour un soldat. Donc étonnamment, tout le monde ne sait pas ça, mais Israël a pas tous les... Face au Hamas, face à une armée, si c'était des Égyptiens, il faut faire venir la Croix-Rouge, il faut tout. Face à des gens qui l'ont attaqué comme ça, en n'étant pas sous un statut de soldat, mais en se lançant dans une attaque terroriste contre une population civile, c'est pas pareil. Mais tout le monde ne le sait pas. On croit toujours que, ouais, mais on respecte... Non, il y a des règles, parce que c'est le Hamas. Ça, c'est la première question. La deuxième, pourquoi on ne dit pas oui à tout? À la limite, moi j'ai même déjà entendu ça. On libère les prisonniers du Hamas, ils se retrouvent dans la bande de Gaza, et une fois qu'on sait où ils sont, on les tue à Gaza. J'ai déjà entendu ça. Parce qu'on a déjà dit ça. Et pourquoi on ne le fait pas? On ne le fait pas parce qu'on a déjà dit ça au moment de la libération de Gilad Shalit. On revient, je vous le dis, Simon, quand on arrête une guerre de ce ampleur-là, on ne la recommence pas. Personne ne la recommencera. Le jour, et Netanyahou le sait, et tout le monde le sait, Yair Lapid le sait. Si on décrète un cessez-le-feu qui n'est pas une trêve, qui est un vrai cessez-le-feu, qui est ce qui est en train d'être négocié en ce moment, on n'y retournera pas. Parce qu'on n'aura plus jamais le soutien des États-Unis aussi fort qu'aujourd'hui. Parce qu'on ne sera pas sur la lancée du 7 octobre qui fera que malgré tout, il y a de nombreux pays occidentaux qui disent non mais ils sont obligés à regarder ce qu'on leur a fait. Ça sera une nouvelle guerre. Et une nouvelle guerre, les Israéliens ne pourront pas la faire. Donc c'est pour ça que cette idée de on les libère tous et après on les bombarde, ça avait déjà été dit sous Gilad Shalit et c'est pas vrai.
Eh bien c'est bien dommage.
C'est comme ça.
C'est bien dommage. Ok, je vous remercie, bonne soirée.
Je vous en prie, merci de votre appel, Simon, de Paris. On prend un nouvel appel au 01 43 36 04 06. Bonsoir. Bonsoir, vous avez la parole.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
David de Seine-et-Marne.
David dans le Seine-et-Marne. On vous écoute, David.
Bah, écoutez, c'est effectivement une question très, très, très dure. Et je pense que si on a tous ces déchirements, etc., on ne peut pas gagner une guerre si on n'a pas ce sentiment d'être unis face aux menaces diverses qu'on a tout autour de nous. Ce n'est pas possible. Donc, il faut effectivement respecter un temps d'arrêter de parler de survie politique quand il s'agit du survie d'Israël. Voilà. Et ça, je pense que les gens de gauche, effectivement, du type Lapid, du type syndicat, du type tout ça, là, je pense qu'au début, il s'agissait effectivement d'instruire des dossiers post-guerre, on verra après la guerre, qui sont les responsables, etc., etc. Or là, il y a on se précipite parce qu'effectivement, il y a eu ces exécutions d'otages. Ces exécutions d'otages, on les met sur le dos de Netanyahou, on les met. Mais ils étaient peut-être sur la liste, peut-être, on n'en sait rien. On n'a jamais eu un son, on n'a jamais eu une image de vivant, quand il s'agissait, par exemple, de négocier au mois de juillet. Ça, c'est... On a mis des noms, rien d'autre.
Alors, donc, moi, je pense on a mis des noms et ils y étaient, c'est tout. Mais ceci étant, je suis quand même assez d'accord avec vous. Il faut quand même être sacrément sadique pour assassiner les otages avant de partir.
Oui.
Et dire après, c'est Netanyahou qui les a tués. C'est... Il n'est pas obligé d'exécuter des prisonniers. Vous savez qu'exécuter des prisonniers, c'est le plus haut niveau du crime de guerre. Exécuter des blessés, exécuter des otages, c'est... Et après, on dit c'est Netanyahou qui les a tués. Il faut avoir... Je sais pas...
Et le Hamas a suffisamment de dignité, etc., pour ne pas faire une chose pareille.
Non, et le pire, c'est qu'en plus, résultat, on va leur dire oui. C'est dingue, hein. Il y a quand même quelque chose d'extraordinaire. Israël a tenu pendant un an, et au moment de l'acte le plus barbare qui soit, qui est vraiment égal au 7 octobre, quoi. On exécute les otages au fond d'un tunnel 20 mètres sous terre. On dit, on va leur donner ce qu'ils veulent. C'est incroyable. Pendant un an, c'était non, et c'est oui, comme ça. Bon, maintenant, c'est vrai.
Et en plus de ça, c'est craché sur tous les soldats qui sont morts. C'est craché sur soldats. Comment on va libérer des prisonniers?
Vous avez de nombreux soldats. Non, craché, c'est encore, vous voyez, encore une fois, les mots sont durs. Pourquoi? C'est pas la peine. Il y a de nombreux soldats qui disent non, mais moi je suis d'accord pour qu'on les libère. Vous savez pas, ça se passe pas, c'est pas si simple que ça. Il y a de nombreux soldats qui disent non, et maintenant il faut arrêter parce qu'il faut les libérer, ces Israéliens. C'est pas si simple. Mais il y a de nombreux soldats qui disent attends, on a fait tout ça et maintenant. Par exemple, il y a un père de soldats que j'ai vu, moi, à la télévision israélienne, il était sur une chaîne de droite, il était sur la 14e, et il a dit, c'est pas la seule chaîne que je regarde, évidemment, mais bon, voilà, il était là, et il a dit, moi j'ai perdu mon fils à Gaza, qu'on arrête de nous dire qu'il n'y a que les familles d'otages qui ont le monopole de la souffrance, de la douleur, il a dit, je suis pas d'accord. Donc vous avez raison, il y a de tout. Simon, merci de votre appel.
Mais juste un petit mot, juste pour dire que les gens qui ont perdu quelqu'un, je ne parle pas des otages, je parle de quelqu'un, un soldat, n'ont peut-être pas envie non plus qu'il y ait encore d'autres soldats qui
meurent. Ouais. Ouais. C'est une question très très dure. C'est pas un hasard hein, qu'ils en viennent, c'est très dur.
Je ne vous appellerai plus à cause de ça, c'est trop dur maintenant.
C'est dur, bon, appelez quand même, mais c'est dur. Merci Simon, je vous en prie,
au revoir.
Je vous en prie, on prend un nouvel appel au 01 43 36 04 06, bonsoir.
Bonsoir.
Votre prénom s'il vous plaît.
Paul.
Bonjour Paul, alors votre avis.
Non, Netanyahou n'est responsable de rien du tout, je suis navré. Je pense qu'il a la bonne stratégie. Et je pense que je ne sais même pas si les otages qui étaient détenus dans le tunnel ont été exécutés parce que les soldats approchaient, ils avaient peur, les autres, et ils les ont tués parce qu'ils ne savaient pas quoi en faire. Non, je pense qu'ils ont été tués sciemment pour enfoncer un coin dans la société israélienne et pour mettre Netanyahou en difficulté. Et lui faire lâcher l'axe de Philadelphie. Voilà. Alors moi, je pense que Netanyahou, il cherche l'intérêt général. Et donc, l'intérêt général, est-ce que c'est de libérer encore 500 six noirs qui vont perpétrer des attentats prochainement, quand ils sont libérés? Voilà, je ne sais pas. Je vais vous donner un exemple concernant la Deuxième Guerre mondiale. Quand la machine Enigma a été cassée, c'était la machine qui servait à coder les messages allemands. Churchill a sciemment envoyé à la mort des soldats anglais, alors qu'il savait que les Allemands allaient attaquer à tel point, et il n'a rien fait pour ne pas mettre la puce à l'oreille des Allemands et pouvoir gagner la guerre plus rapidement. Voilà, il aurait pu très bien sauver des compagnies anglaises, mais ça aurait mis les Allemands en alerte, et à ce moment-là, ils auraient modifié le codage allemand. Voilà. Alors Netanyahou, il cherche l'intérêt général. Et parfois l'intérêt général, il va contre l'intérêt particulier. Voilà.
Merci de votre appel, Paul. Très clair. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Voilà, cette émission est à présent terminée. Prêtez attention, on a vraiment 80% des gens qui ont appelé, je dois leur présenter des excuses, c'était vraiment très nombreux. On voulait avoir aussi l'école juive parce que c'est très important. Et Georges Malbruno avait des informations à nous donner. N'oubliez pas de télécharger l'application Radio Shalom sur votre téléphone portable, parce que comme ça, justement, par exemple, libération d'otages, vous le savez tout de suite. Vous nous appelez, vous pouvez télécharger cette application, que vous ayez un iPhone évidemment, ou un Android. Vous retrouvez tout de suite le journal de Pierre Gantus.
Vous écoutez Radio Shalom sur le 94.8 FM.
Collège Ohel Yitzhak, un établissement pas comme les autres. Un mot pour définir le collège Ohel Yitzhak? Professionnalisme. Le collège Ohel Yitzhak met au service des élèves une équipe pédagogique très compétente, une méthodologie de travail basée sur une longue expérience et un encadrement professionnel en contact permanent avec les parents. Collège Ohel Yitzhak, Paris 20e.
01 43 66 97 18.
Ohelyitzhak.fr.
Ohelyitzhak.fr.
Ohel Yitzhak. Professionnalisme, rigueur et bienveillance.
Retrouvez toute la programmation du Mémorial de la Shoah sur www.memorialdelashoah.org. Le Mémorial de la Shoah, c'est 17 rue Geoffroy Lagny à Paris dans le 4e. Le Mémorial de la Shoah, un rempart contre l'intolérance et la haine de l'autre.
Tu es déçu de ton orientation? Tu ne te sens pas très à l'aise dans ta formation? Les écoles de l'Ort peuvent te permettre d'accéder sereinement à un métier d'avenir dans les domaines du numérique, du paramédical, du commerce digital, de la finance et bien d'autres. Il est toujours temps de rejoindre l'environnement chaleureux et bienveillant de l'une de nos écoles à Lyon, Marseille, Montreuil, Strasbourg, Toulouse ou Villiers-le-Bel. N'attends plus, ton avenir se décide maintenant. Contacte-nous sans attendre au 01 49 88 46 50. Découvre aussi nos formations sur www.ort-france.fr. Certains jettent de l'argent par les fenêtres et d'autres vont chez Best Fenêtres. Du 14 septembre au 5 octobre, passez en mode économie d'énergie. Profitez de jusqu'à moins 20% sur vos portes, fenêtres et volets. Il fera peut-être moins 20, mais dehors, vous serez bien au chaud avec 20% d'économisé. Best Fenêtres, 132 rue de Bagnolet, Paris 20e et 15 rue Jean Moulin, Les Lilas. 01 43 73 36 36. 01 43 73 36 36. Entreprise qualifiée RGE pour bénéficier des aides de l'État.
Retrouvez toute la programmation du Mémorial de la Shoah
Tu es déçu de ton orientation? Tu ne te sens pas très à l'aise dans ta formation? Les écoles de l'ORT peuvent te permettre d'accéder sereinement à un métier d'avenir dans les domaines du numérique, du paramédical, du commerce digital, de la finance et bien d'autres. Il est toujours temps de rejoindre l'environnement chaleureux et bienveillant de l'une de nos écoles à Lyon, Marseille, Montreuil, Strasbourg, Toulouse ou Villiers-le-Bel. N'attends plus, ton avenir se décide maintenant. Contacte-nous sans attendre au 01 49 88 46 50. Découvre aussi nos formations sur www.ort-france.fr.
Retrouvez toute la programmation du Mémorial de la Shoah sur www.memorialdelashoah.org. Le Mémorial de la Shoah, c'est 17 rue Geoffroy Lagny à Paris dans le 4e Mémorial de la Shoah, un rempart contre l'intolérance et la haine de l'autre.
Certains... La société E-Cube vous vont chez Certains jettent